Voilà, chers frères et sœurs, vous avez reconnu le dimanche que nous célébrons, le dimanche de Gaudete, le dimanche de la joie. Et alors saint Paul le dit, il le dit même deux fois si vous avez été attentif, et il le dit d'une façon assez étonnante. Il dit, frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez dans la joie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça peut paraître un peu injonctif. Sois dans la joie. Bah oui, mais enfin, j'ai une maladie assez grave, je suis dans un deuil, je viens de rater un examen, j'ai été abandonné par mon conjoint. Vous avez remarqué avec moi que saint Paul n'exclut personne. Il ne dit pas... Soyez dans la joie, je le redis, soyez dans la joie, sauf ceux qui sont en deuil, sauf ceux qui sont malades, sauf... Alors là, vous avez le droit de ne pas être dans la joie. C'est étonnant cette injonction de saint Paul. Comme si il y avait un secret qu'on n'avait pas découvert, ou comme si il y avait une vérité qu'on ne voyait pas. D'abord, on peut scruter saint Paul lui-même et on peut se dire, moi quand il y a quelqu'un qui, alors que je viens de vivre quelque chose de difficile, qui me dit « Sois dans la joie ». Souvent peut-être avec l'accent du Sud, vous savez, ces gens fantastiques qui viennent vous voir. « T'inquiète pas, sois dans la joie, oh, viens me boire le pastis avec moi, sois dans la joie ». Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Tout de suite, on évalue la personne. C'est-à-dire, on dresse la carte d'identité. Oui. Voyons voir, est-ce que celui-là, il ne serait pas complètement dingo? Alors faisons la même chose avec Paul. Est-ce qu'il est solvable, Paul, en d'autres termes, en termes plus parisiens? Saint Paul, lui-même, celui qui dit ça, soyez dans la joie, qu'est-ce qu'il a vécu de douloureux? Il le dit lui-même, dans la deuxième aux Corinthiens. Trois fois, j'ai été battu de verge. Une fois, j'ai été lapidé. Entre parenthèses, quand on est lapidé, c'est pas pour vivre, c'est pour mourir. Comment il en est réchappé, j'en sais rien. Trois fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Alors, il parle pas des trois fois où il a été battu de 49 coups de knout. Saint Paul, c'est quelqu'un qui a souffert et il le dit. Alors quand il dit « Soyez dans la joie », qu'est-ce que ça veut dire? Il me semble que saint Paul a découvert une zone de lui-même, une partie de lui-même, d'autres dans la vie spirituelle, dans l'histoire de la spiritualité, l'ont découvert aussi, mais une zone où, effectivement, quand on se réfugie dans cette zone, quand on va dans cette zone, dans ce centre de nous-mêmes, alors effectivement, il y a une stabilité. Je ne pense pas que Paul parle de la joie émotionnelle, parce que la joie émotionnelle, elle varie. Or, Paul ne dirait pas « je vous dis d'être dans la joie et je vous le redis », sous-entendu, c'est quelque chose de stable. On peut comprendre qu'à travers son injonction, il y a quelque chose de fort et de stable. La joie émotionnelle n'a rien de stable. C'est une joie qui ne dépend pas de nous, c'est une joie qui dépend des circonstances. Elle arrive, elle disparaît. On sait qu'un coup, on va être heureux et on sait que le lendemain, on peut ne pas être heureux. Ou même l'heure d'après. Parce qu'on voit une mauvaise nouvelle à la télévision, parce qu'il y a quelqu'un qui nous appelle, qui nous dit une catastrophe et on est un petit peu sensible. Et du coup, notre émotion varie, vous voyez. Mais saint Paul ne parle pas de ça. Il ne parle pas de cette joie-là. Il parle d'une joie, il me semble, qu'on obtient ou qu'on peut vivre quand on se réfugie au centre de nous-mêmes. Jean de la Croix et Thérèse d'Avila, les deux, parlent aussi de cette joie. Thérèse d'Avila, elle, va parler des châteaux intérieurs. Elle dit... L'âme se réfugie au centre du château. Jean de la Croix dira, l'âme, la personne, se réfugie au centre d'elle-même comme dans une place forte. Et après, il commente et il dit que là où l'âme s'est réfugiée, personne ne peut l'atteindre. Par exemple, l'anxiété ne vient pas dans cette zone-là, ne touche pas cette zone-là. Pourquoi ? Parce que la zone qu'indique saint Paul, cette zone qu'indiquent les maîtres spirituels, c'est l'endroit où est le Christ, en chacun d'entre nous. C'est là où habitent le Père et l'Esprit Saint. Donc quand on prend le temps de se réfugier en nous-mêmes, je vous dirai dans 3 secondes comment on fait, quand on prend le temps de se réfugier dans cette place forte, dans le centre du château intérieur, alors là il y a une sécurité incomparable. Et quand on entre dans cette sécurité, on a un réflexe un peu infantile, du coup on se détend. Et du coup on est dans la paix. Mais on est surtout dans la vérité, parce qu'on est avec Jésus. Et c'est vrai qu'il faut avoir pris l'habitude de le faire. Si on a pris l'habitude d'être sans cesse dans la partie la plus extérieure de notre personnalité, sans cesse en train de réagir au moindre événement, au moindre coup de vent émotionnel, alors évidemment, on n'est plus en nous-mêmes. On n'est plus nous-mêmes d'ailleurs, et on devient l'esclave de nos émotions. Je ne suis pas du tout en train de dire que les émotions, c'est quelque chose de négatif, bien au contraire. Simplement, les émotions ne doivent pas nous mettre en esclavage. C'est ce que nous dit saint Paul. Ne sois pas esclave de tes émotions. Découvre quelque chose d'autre et quelque chose qui te donne de la joie. Alors, est-ce qu'il y a des exemples un peu concrets qui existent, qu'on pourrait se mettre sous l'œil ou dans l'intelligence et qui nous montrent des gens qui ont vécu ça? Mais il y a 2 exemples, moi, qui me sont venus assez spontanément. D'abord, je ne sais pas si vous connaissez ce gars-là, Thomas More, 16e siècle, grand chancelier du roi d'Angleterre de l'époque. Thomas More refuse de valider le divorce de sa femme. Je vous passe les détails, vous irez voir dans une bonne biographie de Thomas More. Toujours est-il que Thomas More va être exécuté par le roi, qui va tuer son ami, parce que Thomas More est l'ami du roi au départ. Il le dira très, très longtemps d'ailleurs, jusqu'à la veille de sa mort, je crois qu'il dit, il parle du roi comme étant son ami. Mais au moment de monter à l'échafaud, Thomas More a 2 phrases qui, moi, me montrent que Thomas More était au centre de lui-même à ce moment-là. Donc il monte à l'échafaud et il s'adresse au sergent qui va le tuer, enfin au bourreau. Je vous en prie, monsieur le lieutenant, aidez-moi à monter. Thomas More était très fatigué, il avait été emprisonné pendant un moment. Monsieur le lieutenant, aidez-moi à monter. Pour la descente, je me débrouillerai. Quand on a de l'humour à ce moment-là, en étant aussi fatigué, c'est qu'on est au centre de soi-même. Une autre phrase, un tout petit peu plus tard dans l'événement. Il déclare au lieutenant, donc il monte, on imagine, il monte à l'échafaud, on va lui couper la tête avec une hache, bon. Donc il déclare au lieutenant une 2e phrase qui montre qu'il était bien au centre de lui-même, à mon avis. Il dit « Ma barbe est innocente, ma barbe est innocente de tout crime et ne mérite pas la hache. » Alors il poussa sa barbe délicatement de manière à ce que le bourreau ne la coupe pas. Saint Thomas More, c'est un saint, meurt martyr, martyr de la vérité. Et saint Thomas More, à ce moment-là, était bien au centre de lui-même. Il y a une autre personne qui nous touche de plus près et qui est venue à mon esprit, je vous avoue, tout aussi spontanément, c'est peut-être l'association d'idées des rois, c'est Louis XVI, pareil, qui monte à l'échafaud, juste avant de mourir. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de cet homme? Comment est-ce qu'il est au centre de lui-même, cet homme-là? Louis XVI, avant de monter, interroge autour de lui, à la guillotine, et dit « Avez-vous des nouvelles de monsieur de La Périne ?» La Périne, c'était un explorateur qu'il a envoyé monsieur de La Périne était en perdition. On n'avait plus de nouvelles de lui. Voilà ce que Louis XVI fait. Il va mourir dans 2 secondes et il s'inquiète de savoir si on a des nouvelles de monsieur de La Périne. Pour moi, ce bonhomme-là, il est au centre de lui-même. Je pense que comme moi, vous avez rencontré des tas de gens malades qui étaient au centre d'eux-mêmes. La maladie n'empêche pas d'être au centre de soi-même. Le deuil, je pense, n'empêche pas non plus d'être au centre de soi-même. La difficulté, c'est que pour être au centre de soi-même, il faut avoir pris l'habitude d'y rester. On a tendance à remonter à la surface de nous-mêmes comme des bouchons. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a 2 choses à faire pour rester au fond, ou plutôt au centre. La première chose à faire, c'est prier. Parce que quand on prie, Dieu nous tient en lui. Quand je prie, même 1 seconde, je suis dans le centre. Et pourquoi j'y resterai pas plus longtemps ? On peut très bien travailler et avoir le cœur uni à Dieu. On peut très bien régulièrement dire au Seigneur qu'on l'aime en 1 seconde, alors qu'on est en train de travailler, ou alors qu'on est en train de servir, ou alors qu'on est en train de s'occuper de l'un ou de l'autre. On peut centrer son cœur sur Dieu en faisant une chose toute simple, en disant « Seigneur, je crois en toi ». Ça suffit. Et là, on est au centre de soi-même. Je vous dis, toute la difficulté, ça va être d'y rester. Pourquoi ? Parce que notre intelligence, notre sensibilité sont tellement nourries de choses extérieures qu'elles vont être comme des petits animaux qui vont rechercher la lumière à moudre, vous voyez, à manger, la sensation à manger ou l'idée à manger, qu'elles vont réclamer, un petit peu comme des petits chiens qui réclament quelque chose à manger, vous voyez, à l'intérieur de nous, notre intelligence. Et c'est ce qui provoque la distraction, c'est ce qui provoque le mouvement de l'imagination. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Ce que les maîtres spirituels nous enseignent est très simple. Dans ces cas-là, on plonge dans la vague. On est en train de vivre le vent des globes, je ne sais pas si vous êtes au courant. La mer, pour ça, est une image extraordinaire. À la surface de la mer, c'est le bazar. Mais au fond de l'eau, c'est stable. Donc il faut plonger, simplement plonger. Simplement dire au Seigneur, je crois. Et à ce moment-là, le Seigneur nous tient. Et à ce moment-là, le Seigneur se diffuse en nous. Et qu'est-ce que le Seigneur nous donne à ce moment-là ? Une chose toute simple, la paix. La paix. Et c'est cette paix-là dont saint Paul parle. Il l'appelle la joie parce qu'elle est... Oui, c'est une joie profonde, c'est une joie stable, c'est une joie ronde, c'est une joie lourde. Ce n'est pas une joie qu'on déstabilise comme ça. En tous les cas, ça ne déstabilise pas ceux qui ont pris l'habitude de se centrer dans cette place forte. La deuxième chose qui nous permet d'aller dans cette place forte assez facilement, d'y descendre comme on descend une corde ou comme on descend j'imagine les pompiers descendre à toute vitesse dans leur voiture avec la barre centrale. Voilà, ça c'est pour Paul et Augustin. C'est la gratitude. La gratitude, c'est comme la prière. Ça nous centre en Dieu. Ça nous donne cette paix, ça nous donne cette joie. Et la gratitude, on peut tous la pratiquer. Là encore, il faut avoir le réflexe de le faire. Une habitude, il faut créer l'habitude. Et c'est ça, le plus difficile, ça va être, je le répète, pardon, mais c'est important, ça va être de créer l'habitude. Merci pourquoi ? Ben, merci pour le temps qui change, merci pour les sœurs qui sont là, merci pour les enfants qui courent, merci pour... Il y a des tas de raisons de se réjouir, en fait. Bien sûr, il y a aussi des tas de raisons de se lamenter. On peut mettre les peurs, on peut mettre nos peurs en avant, nos angoisses en avant. On peut aussi très bien les accepter. Elles sont là. Et remercier. Merci Seigneur pour ce moment de prière. Merci Seigneur pour la fête qu'il va y avoir tout à l'heure. Là, on va prendre l'apéritif ensemble, ça va être génial. Merci Seigneur pour le repas partagé qu'il va y avoir aussi. Merci Seigneur pour ma famille, pour mes enfants, pour mon... C'est vrai. Beaucoup de choses, nous profitons de beaucoup de choses qui pourraient disparaître. Et pourtant, il y a aussi de la joie à vivre. Demandons cette grâce à la Sainte Vierge. Faire comme nous pouvons d'abord, parce que ce n'est pas facile, il faut le reconnaître. Il y a certaines circonstances qui rendent la descente plus difficile. Mais demandons à la Sainte Vierge de nous apprendre à vivre au centre de nous-mêmes. Demandons à la Sainte Vierge de savoir mettre nos émotions à leur juste place. Demandons à la Sainte Vierge de savoir souvent poser des actes de foi et de savoir souvent poser des actes de gratitude. Si vous le voulez bien, pour terminer ce petit mot, je vous invite maintenant à faire l'expérience dont je viens de parler. Monsieur l'organiste ne va pas jouer pendant 30 secondes, et nous allons faire cette expérience. Je vous invite à fermer vos yeux. Je vous rassure, ce n'est pas de l'hypnose. Mais je vous invite à fermer vos yeux. Tout le monde ferme les yeux. Parce que c'est plus facile. On ferme les yeux. On rentre en soi-même. En chacun de vous, il y a la Trinité, il y a Dieu. Je reste en présence de Dieu. Je laisse les bruits extérieurs exister tels qu'ils sont. Je laisse mon imagination, je laisse mes distractions à la surface de mon être, comme les feuilles dans un arbre, comme les vagues sur la mer. Je les laisse au-dessus de moi et je plonge plus profondément en présence de Dieu. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es là. Je crois que tu me donnes ta paix. Je veux rester en ta présence, stable, pour que ton amour se diffuse en moi. Tu es mon Seigneur et mon Dieu.